franceinter.fr.
Bonsoir. Les îles Maldives, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, une bonne partie de l'Asie du Sud.
L'Indonésie provoquant
sur l'échelle de Richter, 8,5 sur 9.
Même fait vaciller la terre.
Soleil, mer calme, une plage bondée, quand soudain.
Et là, la mer est revenue sous la forme d'un tsunami, une lame de fond sismique, un raz-de-marée avec une vague.
Bonjour. De 10 mètres de haut. Si vous vous demandez quand vous avez entendu pour la première fois le mot japonais « tsunami », ne cherchez plus. Ce mot, le monde entier l'a découvert le 26 décembre 2004. Ce jour-là, un séisme jamais égalé depuis l'existence des instruments de mesure soulève les profondeurs de l'océan Indien et il provoque une vague géante qui va ravager les côtes de nombreux pays d'Asie, du Sri Lanka à l'Indonésie. La catastrophe fera plus de 220 000 morts. C'est en Indonésie que l'on compte le plus de victimes, 170 000 pour l'essentiel des habitants de la province d'Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumatra, la capitale de la province est presque entièrement rasée par les vagues. Immédiatement connues, les conséquences du tsunami provoquent un élan humanitaire international sans précédent. Des milliards d'euros parviennent aux pays sinistrés, souvent dans le plus grand désordre. Mais l'aide, même amputée par les déperditions et la corruption, permettra quand même une véritable reconstruction des zones dévastées. Dans la province d'Aceh, la catastrophe a même un effet inattendu. Elle met un point d'arrêt à une guerre civile qui opposait depuis trois décennies les forces gouvernementales à un mouvement indépendantiste, le GAM. Aujourd'hui, à quelques monuments près, il est très difficile à un visiteur de Banda Aceh de trouver trace de ce drame. Les survivants, en revanche, restent profondément marqués. Retour à Banda Aceh, c'est un reportage de Sandy Dauphin et Eric Audrin.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nama saya Martunis, umur ketika tsunami 8 tahun.
Je m'appelle Martunis. Au moment du tsunami, j'avais 8 ans et j'habitais sur la côte à Banda Aceh. Au moment du tsunami, j'ai dérivé sur un lit en pleine mer. J'ai passé près de 21 jours totalement seul. Autour de moi, il n'y avait que des corps. Pour manger, j'attrapais tout ce que je pouvais. J'ai trouvé des bouteilles d'eau minérale qui flottaient. Et puis il y avait plein de nourriture, des nouilles, des biscuits. Mais au bout de 21 jours, je me suis retrouvé sans rien. Heureusement, deux pêcheurs m'ont secouru. Ils m'ont ramené sur la plage de Banda Aceh. Pendant tout ce temps, je n'avais sur moi qu'un maillot avec le nom de Rui Costa, de l'équipe de football du Portugal. C'est ainsi que les télévisions du monde entier m'ont filmé quand j'ai touché terre.
Vous avez été aidé après qu'on vous ait trouvé?
Comme j'étais devenu célèbre, j'ai été invité au Portugal par les grands footballeurs.
Rui Costa, Luis Figo,
Ronaldo et le sélectionneur Scolari. C'est grâce à eux que j'ai pu remonter la pente. Et ils m'ont même offert une bourse pour payer l'école jusqu'à l'année dernière. Ils m'ont aussi offert une parcelle de terrain de 1000 mètres carrés pour y construire une maison.
Quelle est votre situation aujourd'hui? Vous faites quoi?
Aujourd'hui, j'habite avec mon père, car j'ai perdu ma mère et ma sœur dans le tsunami. Mon père s'est remarié, j'habite avec eux. Le passé, je n'y pense pas trop, même si je n'ai rien oublié, bien sûr. Mais je préfère me tourner vers l'avenir. Aujourd'hui, je fais partie d'une équipe de football qui a été réunie grâce à l'équipe nationale du Portugal. Et mon objectif, c'est de devenir footballeur professionnel.
On est un peu essoufflé parce que on se trouve sur l'un des sites historiques de Banda Aceh. On est sur un immense bateau, c'est un bateau usine d'électricité qui était devant la ville de Banda Aceh au moment du tsunami, parce que la ville connaissait beaucoup de coupures électriques. Et pendant le tsunami, ce bateau a été complètement charrié par une vague à 4 km à l'intérieur des terres. Et aujourd'hui, il trône au milieu de la ville. Et c'est devenu un bateau musée en quelque sorte. On est avec l'une des guides du site. Bonjour.
Je m'appelle Pagi.
En fait, il fait quelle dimension ce bateau ?
Itu panjangnya 63, lebarnya 19 meter.
19 mètres et longueur ?
Panjangnya 63.
63 mètres.
On a vu sur toute la ville de Banda Aceh ici, et en effet tout a été reconstruit. C'est difficile à imaginer qu'il y avait jusqu'à 7 mètres d'eau ici. On voit des maisons neuves, on voit des poteaux électriques, des dômes de mosquées, les routes sont goudronnées et la végétation a repris. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter ce site.
Itu sempat pernah itu dalam satu hari 10.000 pak, 9.000, tapi ada juga kadang-kadang 3.000, 2.000.
Ça dépend des jours. Il y a quelquefois 9.000, il y a quelquefois 10.000 personnes qui sont visitées ici.
On voit qu'il y a un groupe de touristes avec un guide. On va aller écouter un peu ce qu'il dit, le guide.
Jadi selain dari objek daripada nak tengok kapal ni, kita ada juga objek tugu monumen tsunami. Ni depan kita ni objek tugu monumen tsunami ni. Di mana dia nak duduk ni kapal ni daripada atas boleh tengok.
D'où venez-vous et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui avec ce groupe?
Kita dari Selangor, Malaysia.
Il vient de Selangor, Malaysia.
Ni trip lah, trip ke rombongan lah. 4 hari saja, sengaja.
Oui, il est venu ici juste pour voir le monument de tsunami.
De Malaisie.
De Malaisie.
C'est un voyage organisé pour les 10 ans du tsunami?
Oui,
yeah. D'accord. Pourquoi vous avez eu envie de venir faire ce voyage un peu particulier?
Ini tengok kebesaran Tuhan lah. Ada peninggalan seperti masjid lah dan lain-lain.
Là, je vais voir le vrai, la réalité, la puissance de Dieu et aussi le mosquée. C'est la belle mosquée.
Dans la file d'attente devant les ablutions, certains ont encore autour du cou des accréditations. Ils portent leurs t-shirts aux couleurs de leurs ONG. Ceux qui travaillent dans les décombres ont encore leurs masques de protection et des bottes souillées s'entassent au pied des marches. Les sauveteurs forment le gros de l'assistance. D'habitude, le vendredi, des fidèles, il y en a jusque dans les jardins de la mosquée. Cette fois, ils rentrent tous sans problème à l'intérieur. Tous ceux qui manquent sont ceux qui sont morts. Le minaret penche dangereusement, comme s'il avait tout pris pour protéger la mosquée quasi intacte et déjà repeinte même par des militaires. Toutes les associations et partis islamistes sont là pour accueillir les fidèles de ce premier vendredi après le tsunami. La prière est retransmise en direct dans tout le pays. Le prêche demande aux fidèles de s'armer de patience et de courage. Il rappelle aussi que Dieu a envoyé une épreuve pour qu'on n'oublie pas sa parole. La prière aux morts clôt la cérémonie. Les sauveteurs reprennent leurs masques et leurs bottes souillées. Banda Aceh, Fabienne Sintès, France Inter.
Là, au centre-ville, on arrive devant le mosquée, le grand mosquée à Banda Aceh, où il y a le décor à ce moment de tsunami, des factures, des tous quoi.
On voit un grand bâtiment blanc avec plein de dômes, et c'est ce bâtiment qui a été épargné hein, pendant le tsunami. Les gens se sont réfugiés à l'intérieur.
À l'intérieur et au toit. Au toit de mosquée. Voilà.
Saya Azman Ismail, imam Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
Je m'appelle Azman Ismail, l'imam Grand Mosquée Baitur Rahman à Banda Aceh. C'est le principal mosquée à Banda Aceh.
Masjid ini selamat dari
cette mosquée est épargnée par le tsunami. Mais ce n'était pas seulement cette mosquée qui était épargnée. Il y avait d'autres mosquées comme mosquée à Ulele qui étaient sauvées par le tsunami.
Vous pensez que la mosquée a été épargnée parce que c'est un lieu sacré?
Ya. Kalau kami melihat dari kacamata keimanan,
c'est un lieu sacré. Et il y a beaucoup d'autres bâtiments
plus costauds
et étaient détruits. Par contre, cette mosquée, non.
Est-ce que ça veut dire qu'après le tsunami, il y a eu beaucoup plus de monde dans les mosquées? Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Kejadian menunjukkan bahwa sesudah tsunami jauh lebih banyak.
Après le tsunami, il y a beaucoup des gens, des habitants qui font prier à la mosquée de Baitur Rahman par rapport avant le tsunami.
Dan yang tinggal hanya satu, selebihnya itu meninggal semua. Anak ini tidak sampai.
Les religions ont beaucoup aidé les gens pour éviter de sombrer.
Nous sommes dans le village de Lam Lampu, sur le littoral à quelques kilomètres de Banda Aceh. 2200 habitants avant le tsunami, 180 survivants. Les rescapés ont pourtant trouvé la force de rebâtir leur communauté avec l'aide des ONG. Bonjour. Depuis combien de temps vous faites ce métier?
Après le tsunami.
C'est-à-dire comment vous vous êtes lancé dans cette activité?
Après le tsunami, il y a des gens dari plain, kan? Latih sekitar satu bulan tu.
Après le tsunami, il y a l'ONG qui fournit le matériel et la formation.
Vous avez dû avoir beaucoup de travail pendant la reconstruction?
Banyak.
Il y a beaucoup de travail pendant la reconstruction.
Ya, tiap hari. Tiap hari, paling hari Minggu près.
Tous les jours, il travaille et prépare le bois.
Maintenant que la reconstruction est en phase d'achèvement, est-ce que vous avez beaucoup de travail?
Salahnya bahannya udah payah kali kita dapat, non? Kayak kayu gitu.
Beaucoup moins de travail, surtout c'est très difficile d'avoir le bois maintenant.
C'est-à-dire qu'on a coupé beaucoup de la forêt pour la reconstruction?
Waktu rekonstruksi itu banyak yang dipotong kayu di hutan, non? Sekarang enggak lagi, itu banyak.
Au moment de reconstruction, il y a beaucoup de bois coupé dans la forêt. Et maintenant, il y a la loi du gouvernement, c'est la loi déforestation.
Est-ce que 10 ans après le tsunami, l'activité économique est comme avant?
Il y en a sekarang, daripada sebelum tsunami. Lebih bagus sekarang, ekonominya, daripada sebelum tsunami.
Ils disent qu'il y a beaucoup mieux maintenant qu'avant le tsunami. C'est plus vite maintenant le progrès, le développement économique qu'avant le tsunami.
Un autre habitant se joint à la conversation. Vous avez toujours vécu ici, vous connaissez très bien le village. Comment vous avez fait pour le reconstruire? Parce que là on voit qu'il y a des maisons, enfin, on a l'impression que la vie a repris normalement.
Kalau proses pembangunan ke masalah rumah cepat, sekitar tahun pertama sudah dibangun oleh CRS.
L'ONG qui reprend pour construire la maison un an après le tsunami. Et puis le deuxième année c'était BRR,
l'agence de reconstruction.
L'agence de construction d'Aceh qui construit aussi la maison.
Yang dibangun rumah, jalan, got, lampu jalan.
Il y avait l'école qui est construite, l'école, maison, la route, électricité, mosquée.
Alors, vous étiez 181 au lendemain du tsunami, aujourd'hui vous êtes combien?
1107 jiwa.
Il y a plus de 1000 personnes aujourd'hui.
Mais d'où viennent ces gens? C'est des gens qui n'habitaient pas ici alors?
Yang pertama di karena perkawinan.
Les gens se sont mariés et puis augmenter les habitants. Il y a aussi les gens d'autres villas qui achetaient les maisons ici. Ils déménageaient ici.
Kalau masalah pembangunan
au niveau le développement infrastructure, c'est mieux que avant le tsunami. Mais au niveau des mentalités des gens, tous les travaux, que ce soit gouvernement ou l'ONG, paye. Pour n'importe travail, le paye. C'est pour ça que ça change les mentalités des gens.
Ça veut dire que maintenant, les gens, quand ils veulent céder, ils demandent de l'argent, c'est ça?
Voilà. Si les gens demandent un coup de main, il faut payer, quoi.
Toko Lari Sejahtera, beralamat di Jalan Tengku Langgugup, nomor 3 dan 4 Langgugup, Banda Aceh.
Nous quittons le village de Lamlampu direction Lamga, à quelques kilomètres. L'une des priorités de la reconstruction en Indonésie, l'éducation. Près de 1000 écoles refaites à neuf. L'école de Lamga, 6 salles de classe, entoure la cour de récréation. Dans un coin à l'ombre, un préau traditionnel surélevé. Le reste de l'établissement est moderne, des toilettes inexistantes auparavant et des portes de classe qui donnent sur l'extérieur pour faciliter l'évacuation en cas d'alerte. Nous avons rendez-vous avec une ancienne élève scolarisée ici au moment du tsunami.
Elle s'appelle Megawati, elle est 18 ans.
Saya sekarang baru tamat sekolah.
Elle vient de finir lycée.
Et elle rêve de devenir quoi alors?
Elle veut devenir photographe.
Vous avez vu votre pays complètement ravagé, en tout cas votre province complètement ravagée. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de votre province, de l'avenir économique notamment?
Oui, optimiste, karena dulunya warga-warga tidak sebagus rumah yang sekarang, bantuan yang sekarang ini.
Elle est optimiste parce que l'école mieux maintenant qu'avant.
Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile pour une fille d'aller à l'école qu'avant?
Mudah yang sekarang.
Plus facile pour les filles aller à l'école maintenant qu'avant.
Kalau sebelum sekolah banyak yang membutuhkan biaya, kalau sekarang banyak bantuan-bantuan.
Avant, il n'y avait pas le bourse pour des enfants. Et maintenant, après le tsunami, il y a des bourses pour des élèves. Et aussi, c'est facile d'aller à l'école parce que la route est bonne maintenant.
Je m'appelle Mingming Remata Evora et je suis la directrice de l'ONG Plan International pour l'Indonésie. Après le tsunami, tout a été rasé ici, entièrement rasé. Plan a construit cette école avec l'aide du gouvernement et les enfants l'ont imaginé avec nous. Ils nous ont dit, nous voulons une cour pour jouer, il n'y avait pas de cour avant, aujourd'hui nous avons une cour. Les enfants ont demandé des arbres, et puis ils voulaient aussi des plafonds plus hauts. Il fallait également un endroit propre. Vous voyez, aujourd'hui les chaussures sont rangées dehors.
Et globalement, vous avez dépensé combien dans la reconstruction?
Plan a reçu près de 40 millions d'euros de dons pour les 4 pays les plus touchés, dont 12 millions pour l'Indonésie. L'argent coulait à flot et en tant qu'ONG, nous tenions à maîtriser ce budget. Donc à un moment, nous avons dit stop aux dons quand on a compris que ça dépassait nos capacités et nous voulions pouvoir utiliser cet argent au mieux en vertu de nos compétences.
À un moment donné, on a dit qu'il y avait jusqu'à 200 ONG en Indonésie. Est-ce que c'était contre-productif ou pas? C'était dur de travailler dans ce contexte?
Il y avait trop Il y avait trop d'organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Pour moi, ce n'était pas efficace. Car il y a eu beaucoup de doublons dans les services rendus et dans l'attribution des aides. Par exemple, la distribution de bateaux et de filets aux pêcheurs. Il y en avait tellement de gens qui offraient des bateaux et des filets qu'un pêcheur propriétaire d'une seule embarcation équipée pouvait très bien, en se débrouillant, en obtenir 3 ou 5. Parce qu'il pouvait très vite comprendre qu'en faisant le tour des organisations, à droite et à gauche, il était possible d'obtenir plusieurs bateaux. Bien sûr, les ONG ont tiré des leçons de cette expérience. La première, c'est qu'il faut une véritable coordination pour éviter les doublons. Et puis, il faut aussi travailler beaucoup plus étroitement avec le gouvernement, parce que quand les ONG lèvent le camp, c'est le gouvernement qui gère.
Voilà, on est ici à l'extrémité de l'île de Sumatra, donc à Banda Aceh. Donc on a vu sur la mer. La mer est à environ quoi, une cinquantaine de mètres. Et puis là, il y a un petit bras de mer. Il y a des bateaux de pêche qui sont amarrés, des bateaux de pêche multicolores, traditionnels. Est-ce qu'on peut demander à ce monsieur qui est pêcheur s'il a connu le tsunami, s'il peut nous en parler ?
Il s'appelle Asril.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé le jour du tsunami ?
Au moment du tsunami, il était dans l'île de Aceh, en face de nous. Il a vu le vague 20 mètres. Quand il a vu le vague était très grand, il a précipité. Il a abandonné le bateau et puis il a monté sur la colline en courant. Oui.
Est-ce qu'il a perdu des membres de sa famille dans cette
tsunami ? Il habite ici. Il habite ici et sa famille, tout est mort ici. Sa femme, ses enfants.
Il avait combien d'enfants ?
Brapa, non, papa ?
Pas.
Il a 4 enfants, 2 filles et 2 garçons.
Et 10 ans après, il a refait sa vie.
Il a kawin lagi, vraiment ça l'a fait nelayan, seperti biasa.
Il a kawin lagi.
3.
Il se mariait de nouvel 3 ans après le tsunami et puis il reprend le pêcheur. Maintenant, il a 3 enfants avec la nouvelle femme.
Il a choisi de rester habiter ici.
Il a une maison qui était l'aide par BRR.
Une maison qui a été construite par l'agence de reconstruction,
voilà.
L'agence BRR. On lui a reconstruit une maison ici.
Près de sa ancienne maison, par ici.
Dibantu juga.
Siapa bantu?
NGO juga.
NGO apa?
NGO dari. Iya, iya, iya.
Il a un bateau l'aide du gouvernement saoudi.
Il a reçu un bateau grâce à l'aide du gouvernement de l'Arabie saoudite.
Oui, l'Arabie saoudite. Il était très heureux. Il était étonnant, quoi.
Étonnant.
Surprise d'avoir le bateau de la part du gouvernement Arabie saoudite.
Alors là, il y a un autre groupe de pêcheurs. Monsieur, c'est votre bateau ? C'est le vôtre ?
Il s'appelle Muslim.
Vous aviez perdu un bateau pendant le tsunami ?
Oui.
Et celui-ci, vous l'avez obtenu comment ? Vous l'avez racheté ? Ou est-ce qu'on vous l'a donné dans le cadre de la reconstruction ?
Yang tahu kita cuman masing-masing punya sendiri ini macam di sini lah.
Ini seng lah. Chacun on a un bateau, mais on achète tout seul. Le problème maintenant, la distribution de bateaux est injuste. Si on connaît bien le staff ou gérer la distribution, ils nous donnent. Mais sinon, ils ne nous donnent pas. Si on a le pouvoir ici, comme le chef de police, chef de village, par exemple, ils peuvent avoir des bateaux et puis distribuer avec sa famille, le plus proche ami ou les cousins. Et comme nous, nous sommes pauvres, on n'a pas reçu le bateau.
Merci, monsieur.
Lampouk, après le tsunami, c'est à se demander si ce village de pêcheurs existe encore, comme pulvérisé. 10 ans après, il est méconnaissable.
Alors là, on se trouve sur la plage de Lampouk, c'est une image de carte postale, une énorme plage en arc de sable fin, un spot de surfeur, il y a quelques bungalows éparpillés sur la plage, quelques touristes. J'ai rencontré Leila, une dame d'origine, une Australienne, qui vit désormais en Indonésie. Leila, can you say a few words about yourself?
Je suis mariée à un Indonésien d'Aceh et aujourd'hui nous vivons à Sabang.
Is this the same?
Et cette belle plage, elle ressemblait à ça avant le tsunami?
Non, c'est très différent aujourd'hui. Le tsunami a vidé les plages d'une partie de leur sable. Beaucoup de sable a été emporté à l'intérieur des terres, notamment dans les chanderies. La plupart des restaurants que nous fréquentions ici avant le tsunami ont disparu dans la mer. Il y avait des bungalows, des paillotes où l'on pouvait déjeuner, des barbecues de poissons. C'était très fréquenté ici le dimanche. Mais tout a disparu, tout a été complètement rasé. Il n'y avait plus un seul bâtiment debout à Lampouk. Tout le cœur du village a été emporté par le tsunami. Beaucoup de gens sont morts ici.
Vous savez combien ?
5 des 6 000 habitants, je crois.
Donc, en fait, la majorité des habitants.
Oui, et si vous faites le tour du village, vous verrez que beaucoup de maisons sont vides parce qu'il n'y a plus assez de familles pour occuper ces maisons reconstruites.
Et si les touristes sont revenus à Lampouk, c'est aussi parce que la guerre est terminée. Dans la province d'Aceh, le tsunami a mis fin à près de 30 ans de conflit entre les séparatistes du GAM et les forces gouvernementales. Accord de paix signé en 2005, la province a désormais un gouverneur issu des rangs de la rébellion.
Madame nous reçoit dans sa jolie maison en béton, peinte en bleu, avec un petit porche, un toit en pente. C'est quoi le symbole qu'on voit devant ?
Negara Turki, tapi untuk warnanya itu seperti GAM ya.
Le symbole, c'est, ça ressemble beaucoup avec le symbole GAM. Mais c'est,
en fait, c'est le croissant rouge.
Oui, c'est le croissant rouge de la Turquie.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de combats ici avant le tsunami ?
Normalement, ici, il y avait toujours la bagarre entre les militaires et les GAM. C'est pour ça que les militaires ont surveillé ce village-là. Ils mettent le camion ici comme le barrage devant ces ailes. Et ce qui fait, les gens, le peuple ici, ne peuvent pas cultiver quelque chose à la montagne où il y a la plantation. Ou bien, ils ne peuvent pas aller à la mer comme le pêcheur. Donc, chaque fois, il y avait les militaires qui surveillaient ici pour que le peuple n'ait pas donné l'alimentation ou bien l'information pour le GAM.
Et aujourd'hui, la paix est revenue ?
Ada sedikitnya, makanya jadi istilahnya seperti gabungan. Oh, enggak juga, karena ini sepupu dia kan dulu bekas panglima. Saya enggak takut juga, karena ya udahlah, kita enggak tahu siapa benar, siapa salah. Tapi
non, c'est plus calme. Les pêcheurs peuvent aller à la mer, les paysans peuvent aller à la montagne pour travailler. C'est très calme maintenant.
Thank you.
yang telah aku raih di dalam hidup ini.
Partout sur le littoral, des constructions neuves sont sorties de terre. On voit des milliers de maisons, des maisons en forme de maisons de Monopoly, posées le long de la route du bord de mer. Le quartier à Lunaga, donc c'est un petit lotissement. Des petites maisons blanches avec un toit bleu. Et on est à une dizaine de mètres de l'eau. Hein. Alors Alfiza, ici, c'est chez vous?
Oui, exactement, c'est ma maison. C'est-à-dire, j'ai une maison où j'habite maintenant.
À Bandaché.
À Bandaché. Et maintenant, il y a 5 ans, j'ai acheté une maison construite par l'ONG.
C'est-à-dire que les propriétaires qui ont eu leur maison détruite ici par le tsunami, ils ont vendu la maison que l'ONG leur a construite.
Oui, exactement. J'ai acheté cette maison au prix de 70 millions.
De roupies, ça fait à peu près 4500 euros.
Il y a des familles qui n'ont pas voulu s'installer proche de la côte parce qu'ils sont traumatisés. Et les autres parce qu'ils voulaient approcher à sa famille qui habite loin d'ici.
Donc vous avez acheté cette maison et vous l'habitez ou pas?
Non, je n'y habite pas, mais j'ai loué avec quelqu'un d'autre.
Vous faites du business avec les maisons construites par les ONG, on peut dire ça?
Oui, oui, j'ai fait le business, j'ai mis mon argent ici, et puis peut-être dans 10 ans, je peux récupérer mon argent.
Mais on a le droit de faire ça? On a le droit d'acheter des maisons construites
Normalement, on n'a pas le droit d'acheter cette maison jusqu'à 10 ans. Après 10 ans, oui. Dans le Patrick, dès que le propriétaire reçoit la clé, il peut vendre directement, et sans contrôle du gouvernement.
Mais ça se fait beaucoup ici?
Ça se fait beaucoup.
On va peut-être aller demander aux voisins, parce que les voisins, eux, étaient ici au moment du tsunami.
Oui.
Oui, eux, ils étaient là. Cette maison, monsieur, c'est l'ONG Caritas qui l'a construite, qui vous l'a donnée. Elle ressemblait à quoi votre maison avant le tsunami?
Kalau kita bilang pak kan, kalau kita bilang bagus darinya nya tsunami ya bagus juga. Kalau kita bilang bagus kayak ini kan bagus juga. Tapi ini bagusnya kita susah pak. Dikasih rumah kan nggak sempurna kayak gitulah. Ya kan mau tidur kadang-kadang airnya.
Avant c'était la maison traditionnelle avec le bois. Et maintenant tous neuf et tout avec le béton.
Il y a beaucoup de maisons qui ont été vendues ici.
Total yang di komplek ini 52.
Il y a 52 maisons ici. Sur 52 maisons, il y a 10 maisons qui ont déjà vendu.
La maison à côté, derrière et de l'autre côté ont été vendues, c'est ça?
Exactement.
Vous aimeriez quitter cet endroit?
Oh, enggak ada pindah. Macam mana kita mau pindah ke sana? Kan kita dari kecil yang di sini kita. Lahir sudah di sini. Jangankah pindah ke depan ke
pantai. Non, c'est pas possible. Je suis né ici, je voulais pas déménager ailleurs.
Pemintangnya enggak mau orang. Tetap harus tinggal di tempat kelahiran. Ya kalau dibilang takut ya takut, Pak. Ya kan?
Kalau on est vivre ici, du côté de la mer. On est cherché d'argent ici, à la mer, comme le pêcheur.
Et vous, madame, vous aimeriez partir?
Non, biar sini aja.
Non, non, non. Moi, j'aime bien ici. Je vous en prie.
Klipnya klip tsunami. Banda Aceh. CD, DVD, mobil, komputer. Empat macam. Empat macam bisa pakai. 20,000. Ya. Aku pakai logonya. Ini bagus.
On se trouve ici en haut d'une tour d'évacuation. Il y en a quatre dans le quartier du port de Banda Aceh, le quartier Ululé. Ce sont des tours en béton avec des rampes d'accès en béton où les gens peuvent venir se réfugier. Le bâtiment fait une vingtaine de mètres de hauteur et d'ici on a vu sur tout Banda Aceh. Boïs Souleyman, bonjour.
Bonjour, oui.
Vous êtes professeur à la faculté d'agriculture de Banda Aceh. Il faut se souvenir que quand le tsunami est arrivé à frapper Banda Aceh, on voit la mer là, ça a englouti toute la ville jusqu'au centre-ville, jusqu'à la mosquée à 5 km d'ici. Hein.
À peu près, oui, 5 km.
Ici, c'était comme une zone de guerre, en fait. Il n'y avait plus rien.
Il n'y a plus rien, oui. Il n'y a plus rien, il n'y a plus maison, il n'y a plus tout. Du tout.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'activités. Et là, on peut plus facile, pour maintenant, plus facile. Et on peut dire plus beau, à Tchèque, par rapport à avant, en fait.
En cas d'alerte, qu'est-ce que les gens doivent faire?
Normalement, il y a sirène qui a entendu. Les gens savent qu'ils doivent fuir en suivant le panneau, l'évacuation. Les gens qui n'ont pas le temps, ils viennent ici, oui, en fait.
Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps de fuir vers les collines hein, qui entourent Banda Aceh.
Ouais.
Là, on arrive au musée d'Aceh du tsunami. C'est un musée qui a été construit en 2009 et inauguré en 2011. Et on voit qu'il est d'ailleurs fréquenté par des groupes scolaires. On arrive à la première partie du musée qui s'appelle le couloir du tsunami. C'est une pièce qui évoque la souffrance des victimes le 26 décembre 2004. C'est un long couloir dans l'obscurité avec des parois très hautes où ruisselle de l'eau et on entend des chants qui rappellent la souffrance des victimes.
Welcome to Aceh Tsunami Museum. And we are here. This is a memorial hall room, and this room is have 26 monitors. We have 40 slideshows.
On est dans une autre pièce du musée qui est consacrée à l'étude hein, des tremblements de terre, parce que ce musée a un rôle d'information aussi sur les catastrophes naturelles. Bonjour madame.
Donc, you have a role, you inform people.
Donc votre rôle,
well,
c'est aussi d'informer les visiteurs du musée sur les catastrophes naturelles.
We have four building at the near at the beach, Ulele Beach, four, and this five.
Cette dame nous explique qu'il y a des tours pour se réfugier dans la ville. Il y en a quatre sur le port de Banda Aceh, à Ulele. Et en fait, ce musée lui-même est aussi une tour pour se réfugier. Les habitants aux alentours peuvent se réfugier sur le toit de ce musée qui est à 30 mètres du sol.
Before, we don't know about,
avant, nous ne savions absolument pas ce qu'était un tsunami. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons toutes les informations nécessaires. Ici, par exemple, nous informons nos visiteurs sur les façons de se protéger. Mais nous prions pour que jamais ne se reproduise le tsunami du 26 décembre 2004.
Retour à Banda Aceh, c'était un reportage de Sandy Dauphin, prise de son sur le terrain Eric Audra, mixage Philippe Bredin. Pour compléter ce reportage, Sandy Dauphin a rencontré l'un des grands acteurs humanitaires de l'époque, Jean-Hervé Bradol. En 2004, ce médecin préside MSF, l'une des ONG les plus présentes dans l'organisation des secours, mais il sera aussi le premier à alerter contre les risques d'un élan humanitaire mal géré. Jean-Hervé Bradol.
Nous, ça a duré une semaine, hein, l'appel aux dons, parce que y avait plus de 100 millions qui ont été collectés. Il y a eu des journées sur, je me souviens, sur le site de MSF aux États-Unis. Il y a eu des journées à plusieurs millions de dollars de collectés dans la journée, simplement sur le site. Et donc, nous, on a appliqué un mécanisme qu'on avait déjà mis au point, c'est-à-dire tenter de ne pas collecter plus qu'on ne serait capable de dépenser pour les victimes en question, celles du tsunami. Donc, au bout d'une semaine, on a décidé de dire au public qu'en ce qui nous concernait, on avait suffisamment d'argent.
Et ça a été mal compris à l'époque ?
Ça a été mal compris par un ensemble d'agences d'aide qui étaient en train de remplir leurs caisses, profiter un peu des fêtes de Noël, de l'incroyable émotion que le nombre de morts avait suscité pour remplir leurs caisses, sans savoir comment elles pourraient utiliser cet argent, en promettant souvent une utilisation en dehors de leurs compétences. Hein. Nous, on savait que, parce qu'on les pratique tous les jours, que ces organismes d'aide internationaux là, n'avaient pas ces capacités à faire. Aussi bien en secours d'urgence, quand on promet de l'eau potable ou des abris pour des dizaines de milliers de personnes à 10 000 km de chez soi, on peut concevoir que c'est une opération très difficile à réaliser. Donc on voyait les organismes d'aide promettre des choses à court terme qu'on savait très difficile à tenir. Et puis, quand ils étaient un peu plus questionnés, ils disaient que ça servirait à plus long terme à la reconstruction, domaine dans lequel ces organismes n'étaient absolument pas compétents. Parce que,
vous parlez de quel organisme, en fait ?
On peut parler de la Croix-Rouge, de certaines agences des Nations Unies. Il y a eu quelques exceptions, mais enfin, on a été quand même, pendant quelques semaines, isolés sur notre position et attaqués publiquement sur notre position. Par exemple, par le président d'Action contre la faim, Jean-Christophe Ruffin.
Vous aviez eu un terme assez fort. Vous avez pas dit c'est écœurant ou en parlant de ce trop-plein de dons.
C'est vrai qu'il y avait un certain, on éprouvait un certain écœurement de voir que la détresse réelle des survivants du tsunami était utilisée dans une opération gigantesque de promotion, d'auto-promotion de beaucoup d'institutions médiatiques. Enfin, je pense que les chaînes publiques françaises ont été vraiment...
Les chaînes de télé,
ont été vraiment un bon exemple de ça. La deuxième chaîne, très certainement. Voilà, de faire des opérations spéciales, des émissions spéciales pour collecter des fonds pour des opérateurs qui n'avaient pas les capacités à les utiliser, ni à court terme, ni à moyen terme.
Est-ce que finalement, on ne peut pas se dire, bah, écoutez, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ?
Si vous voulez, il y a des catastrophes tous les ans dans de multiples pays. Elles sont pas couvertes par les donateurs privés pour ce qui est de la reconstruction. Il y a des mécanismes habituels qui relèvent de la coopération entre États, de mécanismes de financement internationaux. Là, on a profité de l'émotion, de Noël, pour créer une mise en scène et rafler plusieurs milliards auprès des familles, qu'on a sorti des poches des familles, alors que c'est pas elles qui financent ce type de travaux en général.
En termes d'action humanitaire, est-ce qu'il y a un avant et un après tsunami ?
Écoutez, moi, il me semble qu'une des leçons principales n'a pas été tirée, puisque lors du tremblement de terre à Haïti, 6 ans plus tard, la même question s'est reposée dans les mêmes termes. Il y a régulièrement des... nous, on les appelle dans notre jargon des urgences médiatiques, parce que leur principale caractéristique, c'est de passer beaucoup à la télévision. Je veux dire, vous avez 200 000 morts en Syrie, plus de 200 000 morts en Syrie. Bon, c'est étalé, etc. Tout ça. Vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de mise en scène, vous n'avez pas d'appel aux dons. La même année, il y avait une urgence nutritionnelle épouvantable au Niger, avec des dizaines de milliers d'enfants au bord du gouffre. Il y avait une quasi-invisibilité de la crise. Vous avez parlé du tremblement de terre au Pakistan, également extrêmement meurtrier la même année. Il n'avait pas du tout la même visibilité. Donc à partir d'un même type d'événement, il y a des mises en scène sociales, politiques, qui sont tout à fait différentes.
Au moment du tsunami, on a dit qu'il y avait jusqu'à 200 ONG qui étaient en train de travailler sur place. Donc on imagine qu'elles se marchaient un peu sur les pieds, qu'il y a eu quand même des exemples un peu absurdes d'intervention. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui ou est-ce que ça l'est moins ou...
Un élément de réponse, c'est qu'à Haïti, il y en avait probablement 500. Et donc, vous voyez arriver sur les sites de catastrophe tout un tas d'individus, d'organismes qui sont absolument pas compétents, absolument pas organisés pour faire ça. Mais chacun vient là, dans l'excitation des premiers moments, jouer au secouriste. Secours d'urgence, c'est un métier. C'est dur de bien l'exécuter. Nous, on a beaucoup d'échecs. Mais enfin, on est, c'est notre métier. On est organisé pour ça, équipé pour ça. Et déjà comme ça, la part d'échec est très importante. Donc quand vous voyez des organismes s'improviser, secouristes d'urgence à 10 000 km de chez eux, vous savez, alors bon, il y a eu des... c'était la caricature à Aceh, il y a eu des cliniques soutenues par 10 organismes différents, des hôpitaux où il y avait des capacités chirurgicales, où il y avait 3 ou 4 équipes étrangères en train de se battre pour opérer. Évidemment, l'inflation de moyens, et surtout de moyens inadaptés, c'est un des facteurs classiques d'échec d'une opération de secours.
C'est avec Jean-Hervé Bradol, le président de Médecins sans frontières au moment du tsunami, que nous refermons cette interception. Interception est une émission réalisée par Annie Leroux avec l'aide de Christine Kern et Stéphane Combe. À la semaine prochaine. Cheers.